Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour.
At the Happy Hour. At the Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, et non, ce n'est pas Clara qui ouvre le dernier Happy Hour de l'année, mais rassurez-vous, elle finit sa liste des mauvaises résolutions 2024, et elle arrive. Alors pour moi c'est une première, et je pense qu'il y aura sans doute quelques ratés, comme on rate une mayonnaise, des blancs de neige, ou même le plan de table du repas de Noël. Mais comme le dit Samuel Beckett, essaye encore, ratez mieux. Alors, si vous n'êtes pas au courant, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Et avec elles, le flot incessant des téléfilms de Noël. Coup de foudre sous le sapin, le Père Noël est en retard, et oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait à Amazon pour qu'il oublie nos cadeaux. Sans oublier l'avalanche des reportages télé sur Noël et sa course à la consommation. Faut courir, acheter, consommer, se ruer, tic-tac, les heures passent. Bip, le bruit du sans-contact, c'est la course aux cadeaux, la course aux courses, la course aux épicéas, et puis, épuisé, même le Père Noël le sera. Sans oublier les repas à rallonge qui s'enchaînent comme des 49-3, alignés à crise de foi politique, la légendaire battle de l'équipe. Oh non, on ouvre les cadeaux le 24 décembre au soir versus, oh non, vas-y, on les ouvre le 25 au matin. Avec ceci, vous reprendrez bien un peu de bûche, allez, restez manger ce soir, il y a plein de restes à finir. Et au fait, vous avez prévu quoi pour le jour de l'an? Je suis déjà épuisé avant même que cela ait commencé. Mais aujourd'hui, nous allons ralentir, prendre le temps, respirer, souffler, digérer, se poser avant les fêtes de fin d'année. Pour cela, on va naviguer entre le corps, la tête et l'estomac avec nos invités. Tout d'abord, Laure Mallet-Leprince, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes nutritionniste amande et vous allez nous éclairer, nous rassurer, peut-être même nous déculpabiliser sur comment manger différemment ou autrement durant ces fêtes de fin d'année. Entre le corps et l'esprit, il n'y a qu'un pas, voire même une feuille de brique. Olivia Charpentier, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur de yoga, sophrologue, sonothérapeute. Et avec vous, nous allons prendre le temps de respirer, digérer, au sens propre comme au figuré, apprendre à lâcher prise tout simplement en cette fin d'année.
Tout un programme.
Clara, comment ça va?
Bah ça va, hein, ça y est, je suis enfin là, excusez-moi, hein, je suis un peu en retard aujourd'hui.
D'accord, tu as fait ta liste de mauvaises résolutions?
Bah oui, hein, et bah voilà, j'arrête pas de fumer, je crois.
Ah. Ouais. Faudra travailler ça, Clara. Hein. Avec nous, on a aussi Gabin. Donc Gabin, je crois que tu vas nous parler de sport, c'est ça?
Oui, je vais vous faire une chronique sur le Boxing Day.
Ok.
Mystère.
Et boule de gomme. Et Eric qui vient de nous rejoindre. Salut Eric, comment ça va?
Bonjour les gens, ça va?
Alors Eric, c'est quoi ta chronique aujourd'hui, ton sujet?
Moi je vais faire ma lettre au Père Noël.
Elle est pas déjà faite?
Mais justement je vais en parler.
D'accord. Ok, merci. Et donc du coup, l'Happy Hour, c'est parti.
Ça démarre et c'est moi qui prends le relais. Alors pour commencer, je propose qu'on enfonce des portes ouvertes. Noël est plus largement fête de fin d'année. C'est donc comme, j'allais dire Gabin, comme Bérangère l'a dit en introduction, c'est synonyme d'excès souvent, ces périodes de fête de fin d'année. Alors notamment parce qu'on mange et accessoirement boit plus qu'à l'accoutumée. Alors première question, c'est pour vous, Laure, en tant que nutritionniste. Quand on parle d'excès, ça renvoie à quoi exactement?
Alors, quand on parle d'excès, là, sur les repas, enfin, les fêtes de Noël, les différents repas, on peut penser aux excès de chair, dans les excès culinaires, parfois d'alcool. Et aussi, ça nous vient tout de suite à l'esprit, le Gargantua de Rabelais. Donc, on imagine les banquets, voilà, ici, la nourriture est en abondance. Mais, en fait, voilà, l'excès de repas pendant les fêtes, ça ramène aussi à le corps qui a du mal à digérer, parce que ses apports alimentaires peuvent être parfois excessifs, en quantité, et puis à la fois riche en graisse, ce qui allonge la digestion, et puis ce qui va fatiguer le corps in fine.
On pourrait aussi parler d'excès de stimulation sensorielle. Il y a parfois beaucoup de monde, ça peut crier, ça peut s'exciter, ça peut un petit peu se chamailler aussi. Et ça peut être aussi assez fatigant. Mmh. On peut aussi penser à l'avalanche de cadeaux. Certaines familles ont tendance un peu aux excès aussi.
Donc c'est l'excès dans tous les sens. Hein. Donc c'est surtout un problème de quantité. Ça peut être quoi les répercussions sur l'organisme si on reste toujours un peu sur le corps avant de partir sur l'esprit?
Alors, il faut se rappeler, en fait, que bon, si on revient à la digestion, le corps a besoin, en moyenne, de 4 heures pour digérer. Et puis, plus le repas va être copieux, plus il va être riche, plus la digestion va être longue, et plus ça va être difficile de récupérer. Donc ça peut être une des conséquences. Après, petit aparté quand même, on ne fustige pas les graisses, surtout le bon gras, hein, mais plutôt là un mélange de différentes graisses, d'origine animale, des repas très arrosés, qui peuvent mener à cet inconfort.
Alors, vous parlez du gras, du bon gras. C'est quoi, le bon gras, alors ?
Alors, par exemple, on va imaginer des repas avec des poissons des mers du Nord. Donc, ça peut être du saumon s'il est de qualité. ça peut être aussi simplement du gras animal. Ça peut être un bon poulet fermier ou élevé, voilà, avec un label rouge. On peut être sur des matières grasses qui vont être nobles également, hein, des huiles végétales qui vont être vierges, première pression à froid, qui ne vont pas spécialement poser de problème. Mais j'insiste sur le gras parce qu'on a tendance à le mettre de côté dans notre société et il est quand même important qu'il soit présent, même dans les repas de fête.
Il y en a un autre qu'on a tendance à vouloir mettre de côté, même si c'est un peu compliqué, c'est le sucre. Il y en a aussi beaucoup avec le chocolat, la bûche, l'alcool. Est-ce que là, pareil, il y a du bon sucre, du mauvais sucre ?
Alors, pour le sucre, évidemment, quand on voit un petit peu les tables de Noël partout dans le monde, en général, on a au final des pâtisseries qui sont un peu sucrées, certes. Ce qui est embêtant, finalement, c'est plutôt ce qui est produits très industriels qui vont contenir un cocktail de sucre ajouté, des sucres qui vont être d'ailleurs transformés par l'industrie alimentaire, donc pas très adaptés à notre corps, et puis des conservateurs, des additifs, des colorants en excès. Donc on imagine la bûche de Noël vert fluo qui peut-être être problématique pour notre corps. Et puis on peut-être imaginer de manger un peu moins pour mieux en profiter et de privilégier du coup de la qualité. Donc peut-être au lieu d'acheter une grosse boîte de chocolat de Noël ou plusieurs grosses boîtes de supermarché, pourquoi pas acheter quelques petits chocolats chez le pâtissier du coin qui vont contenir sûrement plus de beurre de cacao, certes du sucre, mais dont on profitera. Et l'idée aussi, c'est de ralentir pour les déguster.
On peut penser aussi au sucre naturel, le sucre des fruits, le sucre des dattes, des figues, des fruits séchés, qui sont d'excellentes sources aussi de sucre.
Eric, tu avais une question.
Oui, non, comme on va parler de sport aujourd'hui, est-ce que là, on peut faire pareil ? Est-ce qu'on peut s'entraîner ? C'est-à-dire, est-ce que je peux commencer dès maintenant à manger manger un peu moins bien pour préparer mon estomac, mon foie à tous ces excès ? Ou est-ce que ça sert strictement à rien ?
Si vous fatiguez votre corps avec des digestions déjà un peu difficiles et longues dès maintenant, je ne suis pas sûre que ça ait le même impact qu'un entraînement d'un marathonien, parce que vous allez arriver à Noël et aux fêtes du jour de l'an avec un corps épuisé et qui aura vraiment du mal à gérer ses excès. Par contre, en effet, une alimentation qui est riche en tout, en tout cas qui est diversifiée au quotidien, ça vous permettra en effet de mieux vous y préparer. Ça, oui, c'est certain.
Vous vouliez dire quelque chose ?
C'est le principe du calendrier de l'Avent, un petit peu. Hein, ouais, c'est ça, un petit chocolat tous les jours.
C'est ça.
Non, je pense qu'effectivement, les excès au niveau graisse saturée, pesticides aussi, hein, toutes les choses industrielles, comme on a parlé, et puis beaucoup de sucre, toujours industriel, tout ça, ça fatigue énormément l'organisme. Et du coup, si on arrive déjà épuisé, le système immunitaire est déjà fragilisé. Enfin, ça peut faire un effet cascade, alors que effectivement, un repas entre guillemets avec des excès, l'organisme il peut quand même se assimiler. Mmh. Il peut aussi faire un petit jeûne intermittent derrière. Enfin, il y a quand même des choses à faire pour pouvoir apprécier aussi. C'est beaucoup de un état d'esprit aussi par rapport à ce repas un petit peu différent. Mmh. Si on l'apprécie en conscience, c'est pas la même chose que manger dans la culpabilité.
Voilà, parce que il faut quand même se l'autoriser. On peut se dire, bon, on va pas se priver non plus pour autant. Ça reste des périodes qui sont assez... c'est pas toute l'année, quoi. C'est assez exceptionnel. Est-ce que ça peut être aussi une des formules magiques, finalement, ne pas se priver, donc ne pas culpabiliser. Donc, finalement, on digère mieux aussi, peut-être, après.
Oui, alors je pense qu'une des premières choses, c'est de parler aussi de la reconnexion à ces sensations alimentaires. Et en effet, le plaisir, ben, il peut être là quand on mange, parce que c'est un moment où on a faim, ou en tout cas quelque chose nous fait envie et on va le déguster. Et puis aussi, on va être attentif à l'arrêt de la faim, quand le rassasiement arrive. C'est bien de s'écouter, voilà. Et en effet, le plaisir est vraiment très important. Le partage, voilà, fait également partie le partage de repas, voilà, plaisants, de mets savoureux, fait également partie des fêtes de fin d'année, bien sûr.
Et d'ailleurs, pardon. Allez-y.
Oui, là où est le souci, c'est que ce plaisir, il est vraiment propre à chacun. Et en fait, tout le monde, le consensus n'est pas forcément là pour les aliments, qu'est-ce que c'est bien manger, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'un bon vivant, c'est une connotation, quelqu'un qui va boire beaucoup, qui va manger peut-être beaucoup, voilà, très riche. Alors qu'en fait, un bon vivant, ça peut aussi être quelqu'un qui apprécie de manger des choses saines, de manger des choses de qualité. Voilà, donc c'est ça aussi, cette notion de bon vivant, bien manger. C'est particulier.
Et sur cette question de bien manger, alors une question à toutes les deux, est-ce que vous avez des personnes qui viennent vous rencontrer pour préparer au mieux les repas de fin d'année au niveau nutritionnel ou au niveau yogique?
Yogique, on peut dire ça.
Oui, ça se dit. Ouais. Eh bien, je l'ai dit.
Yogique. Je te laisse démarrer, Olivier.
Spécialement pour les fêtes, au niveau nutritionnel, non, moi, c'est vraiment le yoga, c'est dans une perspective holistique. Donc, il y a l'alimentation, mais on ne vient pas me consulter spécialement par rapport à l'alimentation. Néanmoins, il peut y avoir à l'approche des fêtes, voilà, qu'il y a certaines angoisses, certaines appréhensions. Donc là, effectivement, ça peut rentrer en compte.
Et je te rejoins tout à fait, Olivia. Moi, j'ai pas de demande spécifique. Au contraire, on est plus dans la déculpabilisation parce que les gens sont déjà suffisamment angoissés, notamment quand ils consultent un diététicien nutritionniste. Et donc, on est plutôt les accompagner là-dedans. Et en effet, peut-être quand même en étant vigilant, selon les personnes, à quand est-ce que mon seuil de satiété est atteint, ben, c'est intéressant quand même de m'écouter, de prendre le temps de se poser parce que parfois, on est pris dans le feu de la convivialité, des verres qui passent et des repas qui s'enchaînent. C'est intéressant aussi des fois de se mettre un petit peu dans sa bulle pour s'interroger sur qu'est-ce que je veux, comment je me sens et est-ce que là c'est toujours plaisant pour moi ou est-ce que ça devient presque trop.
Exactement.
Là, on est dans l'excès.
Ouais. Bah alors là je te rejoins vraiment complètement parce que c'est exactement l'idée du repas en pleine conscience en fait, d'être dans la pleine présence, connecté à ses sensations, connecté aussi à l'idée de la gratitude, de la reconnaissance pour ce moment qu'on est en train de savourer. Et être conscient de tout ce qui s'est passé pour que ce repas arrive jusqu'à nous, donc les personnes qui l'ont préparé, aussi la terre, la connexion à la terre qui a pu nous fournir ces légumes, ces fruits, par exemple, et être vraiment dans le moment présent, se reconnecter à tous ses sens, ça permet donc d'écouter ces signaux de satiété, et ça c'est fondamental.
Bien manger, ça s'apprend donc toute l'année, hein, vous l'avez fait comprendre, parce que finalement, il ne faut pas venir vous voir forcément que pendant cette période d'excès, mais c'est un peu tout le temps qu'on doit s'interroger, savoir, voilà, qu'est-ce que bien manger, écouter son corps. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en deux, trois mots votre métier nutritionniste, en fait, c'est quoi? C'est juste donner des conseils sur comment se nourrir?
Alors, le métier de diététicien nutritionniste, alors, c'est avant tout des professionnels de santé, en fait. Hein, donc, on est quand même répertorié, voilà, dans le code de la santé publique. Ce qui est important, c'est de se dire que, de nos jours, les idées reçues en nutrition, elles sont légion. Chaque jour, voilà, une nouvelle étude vient contredire une autre. On voit les youtubeurs, les instagrammeurs qui vantent leur corps parfait, leur régime alimentaire miracle à qui veut l'entendre. Et les coachs en nutrition sont partout. Voilà. Donc, petit conseil, plus les conseils donnés sont restrictifs, plus il faut s'en méfier. Voilà. Donc, le diététicien nutritionniste, il a toute sa place. Qu'on ait affaire à un patient en fait qui vienne parce qu'il a une pathologie en particulier et qu'il y a une problématique lié à l'alimentation qui pourrait l'aider, ou quelqu'un qui s'intéresserait à comment mieux manger. Voilà. Donc nous, on prend le patient, un petit peu comme Olivia d'ailleurs, qui parlait d'une approche holistique. Donc on prend le patient, ou voilà, la personne qui vient consulter dans son ensemble, pour l'aider en effet à mieux manger. Mais mieux manger, ça va être aussi en fonction de ses valeurs, ça va être en fonction de ses origines, de ses traditions. Donc on essaie aussi de s'adapter au mieux à la personne qui vient, voilà, pour qu'elle puisse puiser ce que nous on peut lui apporter qui lui convienne au mieux.
Par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous remarquez une prise de conscience sociétale au niveau des personnes qui viennent vous consulter sur leur nouvelle manière de consommer, due aussi à la protection animale, l'empreinte carbone, l'importation de produits en tout genre? Les patients qui viennent vous consulter essayent de remettre en cause leur manière de manger pour aller vers mieux manger?
Alors souvent, quand ils arrivent, c'est déjà aussi, sauf si c'est vraiment médicalement imposé, entre guillemets, ça peut arriver. Donc ces patients-là n'ont pas forcément ces idées-là en tête, mais c'est une prise de conscience. Souvent, c'est une expérience de curiosité. D'abord, ils ne savent pas vraiment à quelle sauce ils vont être mangés quand ils franchissent la porte. Et ça peut faire partie, en effet, des attentes, notamment en termes de végétalisation, entre guillemets, de l'assiette. Donc ce qu'on appelle végétalisation, en tout cas, voilà, c'est sans être végétarien, mais ça va être consommé moins, par exemple, de protéines animales au profit de plus de protéines végétales. Donc, on va trouver notamment dans les légumes secs, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, voilà. Et puis, des céréales qui vont être aussi complètes, qui vont être plus riches en protéines végétales. Donc, oui, on trouve, bien sûr, ces attentes-là chez de plus en plus de personnes. Et puis, on est là, nous aussi, pour aider un petit peu à éveiller cette curiosité chez eux et susciter, en fait, des interrogations. Et puis ensuite, chacun fait son chemin. On propose et chacun dispose.
Et c'est vrai que le moment des fêtes de fin d'année, ça peut être justement assez déroutant pour les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes, parce que le repas traditionnel de fin d'année, le foie gras, la dinde au marron, tout ça. Enfin, les marrons, c'est très bien, mais... mais du coup, c'est vrai que ça pose effectivement... alors, de plus en plus, il y a des recettes qui sont diffusées. Il y a une ouverture d'esprit qui arrive par rapport à cette végétalisation de l'assiette. Voilà, on est en France, c'est encore balbutiant.
C'est quoi, par exemple, une assiette végétale?
Une assiette végétale, c'est une assiette qui est équilibrée, en fait. C'est pas, en fait, on a souvent le cliché que le végétarien va manger que de la salade, ce qui est complètement faux.
Des carottes aussi.
Ou des carottes, voilà.
Ça croustille un peu.
Non, en fait, une assiette végétale, ça peut être... Enfin, c'est une assiette où il y a tous les acides aminés, il y a toutes les protéines, on va dire, les protéines végétales. Il y a des matières grasses aussi de qualité, il y a des fruits, il y a des légumes, des céréales, enfin, c'est quelque chose qui est complet, en fait, c'est pas juste de la salade.
Est-ce que peut-être on peut faire, parce qu'on entend beaucoup parler de différents termes ces derniers temps, puisque même si c'est encore pas totalement ancré dans la société, le végétarisme est en train, on en parle de plus en plus, mais il y a d'autres mots qui lui font face. Donc on entend parler de végétarisme, de flexitarisme, je ne sais pas si ça se dit, et de véganisme. Est-ce que vous pourriez toutes les deux, je crois que vous connaissez un peu bien le sujet.
Oui. Moi je peux parler du flexitarisme déjà, puis je laisserai Olivia parler peut-être du véganisme peut-être un petit peu plus, ou pas, on verra. Donc sur le flexitarisme, ça revient un petit peu à ce que j'abordais plus tôt, là, la végétalisation de l'assiette. Ça veut dire qu'on peut continuer à manger de la viande. Alors on consomme souvent en général avec ça des produits d'origine animale, des œufs, des produits laitiers, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des ovo-lacto-végétariens qui consomment des produits végétariens, des œufs et des produits laitiers. Et puis, donc, le flexitarisme, c'est qu'on va consommer moins de viande, notamment moins de viande rouge, de meilleure qualité et moins souvent. Donc on va s'intéresser aussi souvent à est-ce qu'elle est locale, est-ce qu'il y a un label associé, voilà, on va être un petit peu plus attentif à tout cela. Et on va en consommer, mais avec modération.
La suite.
Et le végétarisme, donc elle l'a bien décrit, on mange des œufs, des produits issus des animaux. et des produits, donc des produits laitiers, du miel, des choses comme ça. Et le végétalisme, dans ces cas-là, il n'y a aucun produit issu de l'exploitation animale. Donc il n'y a pas non plus de miel, il n'y a pas non plus de produits laitiers. Et le véganisme, alors là, ça s'étend au mode de vie.
C'est ça.
Donc quand c'est vegan, c'est aussi le vegan va essayer d'avoir une consommation. Par exemple, il ne va pas porter de cuir, pas porter de laine, des choses comme ça. Donc ça reste assez rare, les personnes qui arrivent à être vegan vraiment.
Ça doit être compliqué.
Tout, enfin, c'est une recherche, c'est presque un idéal, quoi. Enfin, un idéal, c'est leur mode de vie.
Eric, vous voulez réagir ?
Non, est-ce que vous vous inspirez de cultures étrangères, justement, par rapport à tout ça ? Parce que je sais que, par exemple, dans des pays comme l'Inde, ils font très, très attention, justement, à tout ça. C'est même... limite, je crois, ils prennent pas de légumes racines parce que...
Alors, il y a les Jain, la secte Jain qui est effectivement...
Il y a tout ça. Donc, est-ce que vous vous inspirez de d'autres pays, d'autres cultures pour essayer de les adapter à nous, notre façon de vivre? Ou est-ce que vraiment... Enfin, c'est pas quelque chose qui intéresse forcément vos pratiques, à toutes les deux?
Alors, sur une assiette végétarienne classique que moi, je pourrais conseiller à mes patients quand ils me demandent, d'accord, mais si je mets des légumineuses à la place de la viande, comment je fais? Alors, ça peut être simplement de leur dire, ben voilà, vous pouvez faire un tiers, par exemple, de lentilles. Alors, ça peut être de lentilles corail, parce que pour démarrer, souvent, ça met à l'aise et ça se digère très bien. Donc, de lentilles corail, on va mettre un tiers de riz, éventuellement du riz semi-complet quand on est déjà passé un stade supérieur. Et puis, on va rajouter, du coup, un tiers de légumes. Donc, ça peut être des épinards. Voilà, par exemple. Et en effet, ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, mais en tout cas, tes connaissances, Olivia, vont être plus importantes, mais dans la culture indienne, voilà,
telle qu'elle est exportée, en tout cas. Voilà. Que c'est un peu la recette du dal, là, ce que tu viens de décrire, du dal indien, avec beaucoup d'épices dans le dal. Après, il y a beaucoup de civilisations qui sont basées sur l'association, effectivement, des légumineuses et des céréales. Donc, par exemple, on va retrouver... En Amérique latine, le maïs et les haricots rouges, c'est un exemple comme ça. Il y a aussi beaucoup de... Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question, mais il y a plein d'autres protéines végétales aussi. Hein. Il y a le tempeh, le tofu, il y a des protéines aussi dans les oléagineux, dans les noix. Il y a aussi des protéines... Et dans les algues aussi, dans les graines germées. Il y a pas mal de choses aussi voilà, qu'on n'utilise pas forcément dans nos repas traditionnels, mais on peut avoir d'autres...
Non, je suis en train de penser que je voulais compléter. C'est intéressant ce que tu disais pour l'association. C'est parce que ça a été remarqué depuis des millénaires, en fait, hein, que biologiquement, il faut les associer parce que c'est des acides aminés qui sont complémentaires. Donc, c'est pour ça qu'on va associer telle céréale avec telle légumineuse. Et donc, ça, c'est issu de savoirs ancestraux, en fait. Et oui, en biologie, ça se démontre.
Et récemment, on a même découvert que c'était une association qui n'était pas obligée d'être au même repas. Donc, longtemps, on a cru qu'il fallait absolument avoir les deux au cours de la même assiette. Donc, ça pouvait être un peu fastidieux. Et en fait, je crois que c'est 24 heures. Dans la même journée. Donc, si par exemple, on a une légumineuse le midi et une céréale le soir, en fait, on a l'association.
Et est-ce que c'est équivalent aux protéines animales ou pas? Parce qu'il peut y avoir cette question aussi, remplacée par du végétal, d'accord. Mais est-ce que c'est tout à fait le même apport ou non?
On aura moins de graisse saturée.
Donc c'est mieux alors.
On n'aura pas de souffrance animale.
Donc c'est mieux.
Alors, si on décide de devenir totalement végétarien, c'est vrai que c'est intéressant par contre quand même de se tourner vers des professionnels parce que voilà, on peut avoir, si on est totalement végétarien et qu'on n'a pas d'œufs ni de produits laitiers dans
végétarien.
Des végétariens aussi qui ne sont pas ovo-lacto-végétariens. D'accord. Certains vraiment excluent aussi.
Alors, pour moi, végétarien, il y a les œufs et végétarien.
Voilà, il y a même encore une distinction. Il y en a qui ne prennent pas du tout d'œufs ou de poissons. Voire même pas de produits laitiers, hein. C'est selon, mais sans être totalement végétalien. Mais là, il y a quand même un intérêt à vérifier, notamment voilà, sur la vitamine B12, qui a un stock quand même assez long, hein. On est en moyenne sur 5 années, mais ça peut être intéressant quand même de vérifier qu'on fait correctement ces associations pour éviter les carences.
Et ça, je te rejoins parfaitement, et d'ailleurs, j'ai vu parmi mes élèves plusieurs cas de personnes qui ne consommaient pas, même en étant végétarien, en fait, assez de B12. Mais ça peut être aussi dans d'autres... Enfin, on peut avoir d'autres carences dans un menu. C'est pas parce qu'on n'est pas végétarien qu'on n'est pas carencé. Ce sera d'autres carences différentes. Mais la B12, c'est vraiment très important. Et dès qu'on réduit vraiment sa consommation de viande, il faut faire attention à ça. Mais c'est... Je dirais, c'est vraiment... surtout la B12, parce que le reste, après, il faut effectivement être bien attentif, bien informé. Mais maintenant, on a vraiment quand même la possibilité. En plus, on a accès à une diversité. En France, on peut vraiment avoir des régimes équilibrés en étant végétarien, mais la B12, il faut faire bien attention.
Et puis, il y a aussi des nutritionnistes. Vous devez bientôt partir, Laure. Vous avez 3 minutes devant vous. Avant que vous vous en alliez, peut-être nous donner une idée de repas de Noël végétarien ou pas, en tout cas qui ferait a priori pas culpabiliser.
Ouais. Alors, j'avoue que j'ai pas préparé quelque chose spécialement végétarien parce que peut-être que tu pourras le proposer, toi, Olivia. Alors, qu'est-ce que j'ai imaginé ? Un menu Noël, on va dire plutôt abordable, mais qui reposerait quand même pas mal sur du fait maison. Alors, en apéro, on pourrait avoir un kéfir de fruits ou une ginger beer, d'accord ? Mais contrairement à ce que son nom
l'indique, il n'y a quasiment pas d'alcool.
Pourquoi pas ? Voilà, puisqu'on a tendance à avoir de l'alcool derrière. Et bon, on pourrait avoir du champagne derrière ou au dessert, d'accord ? Mais voilà, l'idée, c'était de démarrer avec quelque chose un petit peu léger. On pourrait avoir une verrine de mousse de betterave, voilà, avec du citron, du gingembre ou mousse d'avocat. En évitant ceux qui ont traversé toute la planète, si possible. Voilà. Et puis, j'avais imaginé quelques petits crackers au fromage fait maison. Voilà. Donc, on reste sur un apéro qui est une mise en bouche. Donc, c'est léger. Ça va ouvrir l'appétit, mais on ne va pas être déjà sur un rassasiement qui fait que derrière, ben, on va caler en début de repas ou alors on va ouvrir son estomac et là, on sera déjà dans l'excès. Voilà. On peut imaginer une salade de mâche, pamplemousse, avec éventuellement des dés de comté, de la noix, une sauce vinaigrette maison. Comme ça, on évite tout ce qui est conservateur, ajout, voilà. Et puis alors, je suis restée très classique sur la dinde, le chapon d'un producteur proche, voilà, qu'on peut décliner à l'envi ou même éventuellement le faire de façon tagine, pourquoi pas. Mais on peut aussi opter pour un poulet tout simple, préférence poulet fermier, label rouge, voilà, accompagné de légumes de saison. Donc pané, carottes, patates douces, rôties au four. Et pour finir, la traditionnelle bûche maison, voilà, pourquoi pas. Et on peut imaginer une bûche maison sans beurre également. Il y a des tas de recettes qui existent pour diversifier.
Avec de la courgette, par exemple.
Notre bûche.
Non ?
Alors, je ne connais pas la bûche à la courgette, mais ça existe dans les...
Le beurre est remplacé par la courgette.
Ça existe, c'est l'astuce qu'on utilise dans de nombreux cakes. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Après, je laisse libre cours à votre imagination sur la bûche, mais maison, ça peut être sympa.
Mais écoutez, merci. Est-ce qu'on va retrouver un peu de tout ça dans vos repas de fête, vous pensez, Olivia, Eric, Gabin, Béranger ?
Il y a un peu de foie gras quand même. Désolé. Mais il y en aura un peu, ouais.
Cette année, je ne reçois pas, c'est pas moi qui décide.
Ah ouais, c'est ça, c'est pas toi qui fais la cuisine. Gabin, en général, vous mangez quoi à Noël chez vous ?
Je ne sais même pas ce qu'on va manger cette année.
Pas encore. Bon, surprise aussi. Peut-être qu'on vous lâche tout de suite, je ne sais pas si. Ouais, il est 13h pile poil. Il est pile poil.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.
Et bonne fête de Noël.
Et joyeuses fêtes.
Merci.
Alors, on poursuit, rien ne s'arrête.
Oui, on fait poursuivre.
Continuons.
La fête continue. ça va être bientôt à ton tour, Béranger, puisque les fêtes de fin d'année, c'est aussi parfois, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup quand même, je crois, synonyme d'angoisse. Notamment, on retrouve la famille, ça peut être sujet à tension. Et donc, en fait, c'est l'occasion pour toi de nous parler de ces fameux repas de famille.
Eh oui, les fameux repas de famille, que ce soit à Noël ou pas forcément à Noël, ça peut être délicat pour certaines personnes. Alors aujourd'hui, immersion à la W9 dans un repas de famille. Dinde trop cuite, vin bouchonné, cadeau revendu sur eBay, alerte à la table de Noël. Bon, on peut me targuer d'avoir trouvé un titre racoleur, mais franchement, avouez, ça en jette. Bon, bizarrement, j'ai préféré cette intro à « Vivez un festin de Noël en mode festin ». Alors, je ne sais pas si autour de cette table, il y en a qui ont déjà vu le film « Festin ».
Oui, pas du tout. Ça me dit quelque chose.
Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film « Festin », comment vous expliquer ? C'est pas mal, mais ça part en vrille entre le fromage et le dessert. C'est pas un film que tu vas regarder en famille assis sur les genoux de papy. Bon, les repas de Noël en famille, c'est un superbe théâtre. Chacun connaît son rôle et chacun reconnaît sa place. Tout d'abord, je pense que vous en avez dans chacun dans vos familles, il y a le chef du vin. Que dis-je ? Le dieu du vin. Une sorte de Dionysos qui chaque année nous promet une pépite. Il y va d'une logorée dithyrambique, de mots fleuris et métaphoriques, bien appris et recrachés sur l'autel de la salle à manger. Mais non ! Non, mais non Jérôme, tes vins sont dégueulasses chaque année. Tout le monde sait que tu les as en déstockage à la RAGT. Je ne savais pas que la RAGT vendait du vin. Mais attention, le vin pour Jérôme, c'est chasse gardée. C'est un peu comme en été quand tu fais un barbecue, t'as toujours un gars qui maîtrise l'art de faire le feu. Une sorte de revival de la masculinité préhistorique. Gros mignon Jérôme avec son nouveau brasero. Donc on a Jérôme qui ramène le vin. Et Olivier, lui... Alors désolé, cette chronique est bien trop masculine, vous le verrez, mais je l'ai commencé hier à 21h58. Donc Olivier, lui, il ramène une pièce. Ouais, il ramène une pièce. Enfin, il rapporte une pièce. Ben vous savez, la tendre, la bienveillante expression utilisée dans beaucoup de familles, les fameuses pièces rapportées. Ça vous parle ? Eh bien, Olivier, lui, vient accompagné de Caroline. Alors, pour vous aider à comprendre cette expression, pièce rapportée, fermez les yeux, sauf si vous êtes en bagnole, imaginez un Pulse qui représente la famille. Ce Pulse, il est déjà assemblé. Aucune pièce n'est manquante, la famille a horreur du vide. À côté de ce Pulse, structuré par des rites et des règles, ben, y a Caroline. Pièce de notre Pulse, qui va tenter de trouver une place dans ce grand Pulse qu'est la famille à Olivier. Bon courage, Caro. J'aurais pu vous parler dans cette chronique aussi du beau-frère. Je m'excuse à nouveau, encore de la masculinité des exemples, mais là, il était 22h48 et fallait vraiment que j'avance dans ma chronique. Donc j'aurais pu vous parler du beau-frère qui a un avis sur tout et qui le donne sans demande ni attente. Du cousin, un peu, beaucoup, raciste, assis à l'extrême droite de la table. Qui bizarrement déteste les Pulse, bah, c'est un truc de gonzesse ça. Mais qui aime beaucoup la nouvelle copine d'Olivier, car elle n'est pas racisée comme celle d'avant. J'aurais pu vous parler du clown, de la famille, jamais avare en blague, mais radin en cadeau. J'aurais pu aussi vous parler du grand-père, assis en bout de table, le corps fatigué, mais l'œil encore vif, qui laissera un grand vide dans quelques Noëls. J'écorche Noël, c'est vrai, c'est la mode, mais comme un père Noël qui s'égratigne dans un conduit de cheminée trop étroit... Ben Noël, c'est ma Madeleine à moi, le 25 au matin, posée par mes parents, dans l'évier, une tasse avec encore du kawa. Le Père Noël était passé, mais moi encore j'y crois.
Eric.
Non, c'était juste pour savoir, est-ce que t'as changé les noms dans la chronique ou t'as fait passer des messages en même temps ?
Non, j'aurais pu, mais c'est totalement fictif et rien à voir avec la réalité, bien sûr.
On sera pas là pour le voir, de toute façon.
Non.
Donc, fête de fin d'année, parfois synonyme d'angoisse. Est-ce que c'est aussi pour vous le cas, Olivia ?
Moi, personnellement ?
Oui.
Non, quand même pas. Non, non, moi, je suis contente. Je suis contente de cette période. C'est une période où je peux retrouver ma famille, où je peux être avec ma famille, ma petite famille, mon petit cocon, ou avec ma grande, grande famille qui habite loin. Non, c'est, si le stress, ça va être plutôt les transports pour aller... justement se déplacer parce que c'est long et fatigant.
Donc je vous posais cette question pour essayer d'arriver au yoga parce
oui
que ça
non
être...
mais je comprends, mais par contre je vais parler pas que pour moi, je vais parler quand même que il y a beaucoup de personnes pour qui les fêtes de fin d'année pas facile de retrouver certains membres de leur famille parce que des fois on est fâché avec son frère, on est fâché avec son père, avec sa mère,
avec ça qui, peut être là que le yoga peut intervenir, ouais, ça peut être une manière
le yoga peut aider effectivement. Et puis aussi dans toute cette idée que les personnes sont un peu lasses des excès de la société de consommation, qui ont envie de qui sont conscientes aussi que ces fêtes, ça va générer encore plus de pollution, ça va être dans l'excès et ça va être parfois une question de à quoi bon, enfin quel est le sens de tout ça. Il y a des personnes qui se retrouvent un petit peu en questionnement.
Donc on a parlé beaucoup là en tout début d'émission de l'alimentation, donc voilà, ça, finalement ça, ces périodes de fête, le corps est mis à rude épreuve. Est-ce qu'il y a une approche nutritionnelle dans le yoga, parce qu'on fait souvent référence au corps, corps-esprit, mais est-ce qu'il y a cette approche aussi nutritionnelle ?
Alors dans le yoga, quand même globalement, il y a quand même une propension à être plutôt vers le végétarisme, effectivement, parce que il y a cette dimension de Ahimsa, donc c'est un des principes importants qui est la non-violence et la bienveillance, donc non-violence envers les êtres vivants et bienveillance envers les êtres vivants et envers soi. Donc il y a cette valeur-là qui est importante. Et donc souvent, effectivement, après, on trouve aussi des courants de... Enfin, des pratiques en yoga, bien sûr, qui ne sont pas végétariens. Et on peut, bien sûr, faire du yoga sans être végétarien. Mmh. Mais on va dire que la pratique, elle permet petit à petit quand même de ressentir ce qui fait du bien à son corps aussi. C'est-à-dire que c'est une démarche holistique. Elle va souvent de pair avec des changements progressifs et doux dans l'hygiène de vie. Donc, en pratiquant les postures, les asanas, on ressent à quel point l'alimentation est importante pour notre santé et à quel point certains aliments vont nous faire du bien ou pas. Et c'est impossible qu'on ait envie d'aller au McDo après avoir fait sa séance de yoga, en fait. Donc, voilà, c'est plutôt ça. On a plutôt envie de prolonger le bien-être obtenu par la pratique. Et puis, on se questionne davantage. Donc, effectivement, ça ne va peut-être pas pour tout le monde devenir végétarien. Peut-être que tout le monde ne peut pas. Mais ça va être, effectivement, se questionner sur d'où vient cette viande. Est-ce que dans quelles conditions l'animal a été traité. Voilà. Et puis, peut-être pour aller jusqu'à, effectivement, se dire, non, en fait, j'en ai pas besoin et je peux m'alimenter différemment.
Eric avait une question.
Non, parce que c'est vrai, quand on pense yoga, on pense surtout à des postures, à des positions. Est-ce que vous, dans la pratique que vous proposez, il y a autre chose, il y a plus que ça ?
Du
spirituel dans ce que vous apportez, ou est-ce que c'est vraiment que sur la pratique
posturale,
posturale
Alors, le yoga, vraiment, ce n'est pas que les postures. Le yoga, c'est les postures, c'est une petite partie du yoga. Donc, dans le yoga, il y a les postures, mais il y a aussi toute la partie philosophique. Il y a la respiration, bien sûr, qui est liée aux postures, mais il y a la méditation. Enfin, le but final du yoga, c'est la méditation. Et en fait, c'est vrai que c'est une image vraiment très réductrice, très réduite qu'on a du yoga, pensant que quand on pratique des postures, on fait du yoga. Non, on fait des postures.
C'est comment on appelle ça ? Une truc d'esprit, une.
En fait,
j'ai pas le mot qui vient. C'est pas.
On pratique des postures. On pratique des postures pour arriver à un calme de l'esprit.
Ouais, et c'est un tout, quoi. En fait.
Ouais, c'est vraiment un tout. En fait, c'est vraiment c'est global, c'est intégral. Et le yoga, c'est très vaste aussi. C'est une pratique qui est millénaire, qui date vraiment d'il y a très, très, très longtemps. Et en fait, qui s'est transformée, qui déjà était plurielle au début, qui s'est transformée au fur et à mesure. Donc, on a des textes très anciens qui ne parlent pas du tout des postures. On retrouve les premières traces du yoga dans le Rig Veda, dans le Mahabharata, la Bhagavad Gita, c'est des Gita d'ailleurs. Ce sont des textes, ce sont des textes qui parlent pas vraiment des postures. Et après, plus tard, on va voir les Yoga Sutras qui mentionnent juste l'asana, la posture assise.
On va en parler un petit peu plus en détail déjà de vous, comment vous choisissez de le pratiquer. Mais avant ça. Il y a Gabin qui va nous parler de sport, parce qu'on essaie de garder un peu les liens quand même dans toute cette émission. Donc vous connaissez tous l'adage, j'imagine, un esprit sain dans un corps sain. Alors voilà, c'était ma façon de te lancer, Gabin, pour parler de sport. On t'écoute.
Alors déjà, bonjour à tous. Alors déjà, Clara, est-ce que tu sais ce qu'est le Boxing Day ?
Pas du tout.
Alors le Boxing Day, ça veut dire le jour des boîtes. C'est un jour férié qui se déroule le lendemain de Noël, c'est-à-dire le 26 décembre. On le célèbre au Canada et dans d'autres pays anglophones depuis au moins 1871. Mais certaines sources disent que sa création remonterait même au XVe siècle. La tradition demande de faire preuve de charité et de distribuer des cadeaux aux plus démunis lors de ce jour férié. Aujourd'hui, le Boxing Day fait surtout référence à une journée pendant laquelle de nombreux clients se ruent dans les magasins pour faire les soldes.
C'est une espèce de Black Friday, mais du coup, c'est quoi le lien avec le sport alors ?
Eh bien, en France, comme vous le savez peut-être, tous les clubs sportifs font une pause pendant les fêtes. Eh bien, pas en Angleterre. Parce que toutes les équipes de la première ligue de foot anglaise s'affrontent le lendemain de Noël. Cette tradition remonte à une rencontre qui opposait deux clubs anglais, le Sheffield FC au Alam et Alam FC. C'était le 26 décembre 1860. Il s'agissait du tout premier match interclub. Petit à petit, le championnat s'est structuré et la coutume s'est maintenue jusqu'en 1995. Parce que depuis cette date, la Première Ligue a décidé de changer de date et de programmer le match le 24 décembre à l'occasion du traditionnel Boxing Day. Le Boxing Day a failli faire son apparence en France à cause des matchs décalés dus à la Coupe du Monde au Qatar, mais les footballeurs ont refusé et il n'a pas fait son apparence. Ils estiment que les footballeurs professionnels ont droit à 10 jours de repos consécutifs.
Voilà, même les sportifs doivent se reposer. Merci Gabin. Eric, tu veux réagir?
Non, après ça s'est développé quand même dans d'autres sports. C'est-à-dire le rugby, ils le font depuis quelques années maintenant, et le basket aussi. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'il y avait les familles, comme ça, ça permettait de pouvoir voir le sport en famille. Ouais.
Et oui, c'est ça.
Le top 14 notamment.
Le top 14. Rugby.
C'est ça le rugby.
Bien joué, Clara.
Rugby. Merci Gabin. Donc même les sportifs doivent se reposer. Le yoga, c'est aussi une manière de remettre son corps en forme quelque part, quoi, finalement.
Oui, tout à fait.
C'est donc comme ça que vous l'envisagez, ou c'est plus côté spirituel? Alors, est-ce qu'il y a une part qui prend plus?
Non, il n'y a pas une part plus que l'autre. Okay. En fait, l'idée, c'est de... Effectivement, le corps, c'est... Ouais, on peut dire que c'est le corps, c'est le temple de l'âme, disait un grand yogi, Iyengar. Mais non, c'est pas l'un sans l'autre.
D'accord.
L'un plus que l'autre.
On le disait également en présentation, Olivia, vous êtes aussi sonothérapeute. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la sonothérapie?
Alors, la sonothérapie, c'est une pratique qui utilise le pouvoir des vibrations et des sons qui sont à la fois émis et perçus pour relaxer profondément le corps et l'esprit. Et elle est très efficace pour s'apaiser, pour récupérer, se régénérer, enfin vraiment après, par exemple, des nuits difficiles. Elle est très efficace pour développer aussi ses ressources intérieures, pour voyager à l'intérieur de soi. En fait, elle amène un état modifié de conscience.
D'accord. Et je crois d'ailleurs que vous avez un atelier qui est prévu le 15 décembre, c'est ça?
Vendredi prochain, le 15 décembre. Et puis on en fait un par mois à peu près, deuxième semaine de chaque mois.
D'accord.
Aux alentours du 15.
Et vous le disiez, il y a plusieurs branches, je ne sais pas si on peut dire comme ça, de yoga, en tout cas plusieurs manières de le pratiquer. Est-ce que du coup, le fait que vous êtes aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, à la fois sophrologue et sonothérapeute, c'est une manière de combiner différentes disciplines ou tout est distinct?
Alors, c'est vrai que dans mes cours de yoga, je vais incorporer un petit peu effectivement de sonothérapie et de sophrologie.
Parlez bien en face du micro.
Oui, pardon. C'est après la pratique du yoga que je propose reste un yoga intégral et je peux intégrer aussi un peu de sophrologie et de sonothérapie.
D'accord. Eric.
C'est-à-dire qu'après, vous faites comment, des groupes de niveau ou c'est-à-dire que il y a vraiment tout le monde ensemble et si j'arrive demain, je peux...
Non, vous pouvez venir. Par contre, je vous proposerai des adaptations, je vous proposerai des cours... ça dépend. Par exemple, j'accompagne actuellement une personne en individuel qui a vraiment des pathologies particulières. Donc là, elle a un stimulateur cardiaque. Bon, elle ne peut pas faire sonothérapie, ça c'est sûr. Mais pour le yoga, il y a certaines postures que pour le moment, elle ne peut pas faire. Et je pense que bientôt, elle va rejoindre un cours collectif. Mais là, depuis la rentrée, je l'accompagne en individuel. Mais globalement, je n'ai pas de notion de niveau. Parce que, par exemple, quelqu'un peut être très souple et débuter le yoga. Il est juste naturellement souple. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a, une grande... expérience et même d'autres personnes peuvent être pratiquants depuis très longtemps et s'être blessées et du coup ont une fragilité, je sais pas, au poignet ou voilà. Donc en fait, j'aime pas trop la notion de niveau en yoga. Je vais proposer des adaptations différentes à chacun.
Nous, on a reçu votre newsletter à 48 FM parce qu'on est des yogistes en cours de conversion.
Ah, voilà.
Et vous faites référence, vous proposez plusieurs activités, donc notamment l'atelier sonothérapie le 15 décembre et aussi, puisqu'on est dans cette thématique fête de fin d'année, c'est quoi, retraite, voilà,
c'est une retraite
yoga du nouvel an en Lozère. Et dans cette newsletter, vous dites que le corps est mis à rude épreuve pendant ces périodes-là, donc pas que à cause des fêtes, mais aussi parce qu'il fait froid, parce que les jours sont plus courts.
Oui, oui, oui. En fin d'année, là, on est vraiment dans une période où on a moins de lumière. Il y a certaines personnes qui commencent à avoir un manque de vitamine D aussi, pour en revenir à la nutrition. Mais il y a quand même une fatigue qui s'est accumulée. Il y a des gens qui sont angoissés. Enfin, il y a plein d'émotions qui ressurgissent aussi. Et c'est vrai que souvent, ça fait vraiment du bien. Enfin, moi, j'ai des gens de toute la France, des quatre coins de France qui viennent. Chaque année, ça fait 9 ans maintenant que j'organise cette retraite. Et c'est toujours incroyable de voir des gens parfois bien fatigués par leur année. Surtout quand c'était les années précédentes, là, avec le Covid et tout ça. Et des personnes qui ont subi des choses difficiles, qui ont vécu des choses difficiles dans leur année, ça peut arriver, hein, des personnes qui ont eu un deuil, une séparation, des changements de vie,
et qui arrivent à cette retraite du Nouvel An, qui vraiment laissent leur tension de l'année, laissent ce qui s'est passé dans l'année précédente pour repartir, pour faire un vrai reset et repartir bien.
Qu'est-ce qu'on y fait alors? Ça dure combien de temps? Qu'est-ce que vous proposez? Il y a notamment, là vous faites référence toujours dans cette newsletter, donc il s'agit d'entretenir son feu intérieur, donc j'imagine de se retrouver un peu, de se recentrer.
Ouais, alors
c'est l'Agni, vous l'appelez? Enfin voilà tous ces petits termes un peu, éclairez-nous.
Agni, c'est un terme qui veut dire l'élément feu, qui est utilisé en Ayurveda. Quand je parle de cultiver son feu intérieur, ça va être aussi de venir chauffer aussi, de se rebooster, de booster sa vitalité, en fait, son énergie vitale à travers différentes pratiques posturales, respiratoires, qui permet vraiment de réchauffer le corps, en fait, de stimuler sa chaudière interne, si vous voulez. Et puis, du coup, de préserver aussi, enfin, de renforcer son système immunitaire. Voilà, c'est... Après, il n'y a pas que ça, c'est vraiment un ensemble dans ces retraites. Il y a à la fois des pratiques, des temps de méditation, des temps de partage tout simplement, des temps de balade dans la nature. Et puis la soirée du réveillon, elle est vraiment particulière. C'est un moment où on va faire différentes pratiques pour justement laisser cette année derrière nous et venir orienter positivement toute l'année à venir. Et souvent, j'ai des retours des participants des années précédentes, ou plus tard, quelques mois plus tard, qui me disent « Oh là là, mais cette retraite, elle m'a vraiment permis d'amorcer le pas de ma reconversion, de quitter mon travail. » Enfin voilà, j'ai vraiment des...
Un petit reset, quoi.
Ouais, finalement. C'est ça. Et puis, j'ai vraiment plein d'exemples de gens comme ça qui, après l'avoir fait, ont... C'est pas que la retraite, en fait, c'est parce qu'ils étaient prêts, évidemment. Mais ça met toutes les conditions et ça aide, en fait,
pour enclencher
un processus.
La suite.
Voilà. Puis c'est toujours dans une ambiance très joyeuse, très simple. C'est aussi des gens, des fois, qui en ont marre, en fait, de ces des fêtes, justement, des fêtes traditionnelles. Mais pas que. Il y en a qui ont fait un Noël tout à fait classique et qui viennent faire ensuite une retraite du Nouvel An. Et y a pas d'alcool. Mais ça reste très joyeux et ça reste très gourmand, même si c'est végétarien.
Alors, petite info pratique, si on peut encore s'y inscrire.
Il reste encore quelques places.
Voilà, ouais. Donc, combien ça coûte? Combien de temps ça dure? Ça démarre quand?
Alors, ça commence le 29, ça se termine le 1er. Ça coûte 300... il y a un prix promotionnel quand on vient à 325, sinon 360. Et voilà, qu'est-ce que...
Ben c'est tout. Et est-ce que c'est peut-être une idée cadeau pour certains, peut-être pour toi, Eric, est-ce que tu me vois venir? C'est là que tu interviens avec ta chronique, puisque toi, tu as fait donc ta lettre au Père Noël.
Non, en fait, excusez-moi, j'ai pas le moral. J'ai une nouvelle terrible. Éloignez les enfants.
Ok. Bouge-toi les oreilles.
Vous êtes assis, le Père Noël n'existe pas. Donc j'ai surpris ma maman en train d'emballer elle-même les cadeaux, sans l'intervention d'un seul lutin. Je sais, j'étais comme vous, j'ai d'abord refusé d'y croire. Puis j'ai fait un calcul très précis, il y a presque 8 milliards d'humains sur Terre. Après, il faut enlever ceux qui n'ont pas été gentils, comme François qui m'avait fait un croche-patte et m'avait tiré les cheveux à la récréation en grande section. Ou tous ceux qui utilisent l'anonymat des réseaux sociaux pour harceler, déverser leur haine. Alors ceux qui harcèlent en direct ne seront pas gâtés non plus, hein, cela va sans dire. Bon, alors admettons que le Père Noël réussisse à livrer un cadeau toutes les 5 microsecondes, ce qui fait déjà un bon rythme, hein, même avec des rennes qui carburent au Red Bull Coke, et que je fais une règle de 3. Alors 5 microsecondes, fois presque 8 milliards, fois la distance moyenne entre deux cheminées, soit 6,42 m en ville et 72,24 m à la campagne, fois la vitesse du vent, 35 km/h en moyenne dans l'hémisphère nord, et 42 km/h dans le sud, et sans compter de ne pas pouvoir passer au-dessus de l'espace aérien russe. Alors oui, je sais, ça ne ressemble pas à une règle de 3, mais je calcule de tête, ce n'est pas facile, vous avez qu'à essayer pour voir. Bon, en fait, c'est impossible. En même temps, quand on réfléchit, un mec à barbe, assez gavé de thunes pour arroser presque la terre entière de cadeaux, bah, c'est pas un Père Noël, c'est Jeff Bezos. Mais ne comptez pas sur lui, il n'a pas de barbe. Mais le choc, quoi, c'est comme si on m'annonçait la disparition de milliers d'espèces d'animaux sauvages et la fonte des glaces due au réchauffement climatique. Non mais taisez-vous quoi, espèce de monstre. Bon, et le pire c'est que je venais de finir ma liste de cadeaux. Alors peut-être que si je la lis à l'antenne, il y aura des auditeurs bienveillants pour m'en envoyer. Cher Papa Noël, j'espère que tu vas bien. et que les lutins ne travaillent pas trop dur. En vrai, je m'en fous un peu. Franchement, tu peux bien exploiter des sans-papiers tant qu'ils confectionnent, emballent et livrent les cadeaux. Bon, en vrai, les lutins, si on y réfléchit bien, c'est un travail un peu ingrat comme condition, donc un vrai métier de migrant. J'ai été très sage cette année, Père Noël. Je me suis pas moqué de mes collègues de la radio, même si, honnêtement, parfois, c'est difficile de se retenir. Mais bon, j'ai su être compréhensif. Alors, pour Noël, j'aimerais que tu m'apportes 5 ans en moins. Car ça fait 10 ans que je te le demande dans ma liste, mais j'ai l'impression que tu comprends 5 ans en plus chaque année. Donc c'est moins, Père Noël. Ce que j'attends de toi, c'est une cure de rajeunissement. C'est pas compliqué quand même. D'ailleurs, tu verras ce cadeau aussi dans la liste de Béranger. Rapport à son coup de vieux.
Ah oui, c'est vrai.
J'aimerais des arêtes de poisson. Plein des arêtes de poisson qui puissent se coincer dans les gorges de Poutine, de Trump, des membres du Hamas et de ceux que l'envie de vengeance rend aveugle et ne dissocie plus une population civile et une organisation terroriste. De tous ceux qui croient que la raison du plus fort, enfin tout ça, là, et qu'ils meurent étouffés avec leur arête de poisson, là, coincée dans la gorge. Alors, je voudrais une poupée vaudou anti-stress Darmanin pour me défouler les nerfs. Parce que chroniqueur radio, c'est très stressant. Et s'il n'y a plus ce modèle en stock, tu peux m'envoyer celle de Zemmour.
Bonne idée.
Tous les livres de Marc Lévy et de Musso. Mais non, je déconne, j'ai pas encore 50 ans. Peut-être pour la cure de rajeunissement, tu pourrais m'apporter les nouvelles BD d'Astérix, Lagaffe et Lucky Luke. Comme quoi, je ne suis pas le seul à être un peu nostalgique, vu qu'ils ressortent les héros de BD de nos enfances. C'est un côté rassurant. Après, tu peux aussi m'amener des BD de la nouvelle vague. Parce que je trouve qu'il y a une diversité, une qualité extraordinaire dans le monde de la BD et du livre actuellement. Je te laisse le choix, mais choisis bien. Et enfin, la paix sur la terre. Et la protection de la nature. Ou la sélection des meilleurs roms du monde pour oublier. C'est au choix, disons, le plus facile pour toi. Voilà, Clara se fera un plaisir d'attendre toutes vos propositions d'envoi au standard. Et joyeux Noël.
Très bien, je vais faire donc la standardiste, quoi. C'est ça l'idée. Hein. Merci Eric pour ta chronique. Il nous reste 5 petites minutes. Je ne vous ai pas posé cette question. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir pratiquer du yoga, Olivia?
Alors... ah oui, si, ça y est. J'étais comédienne, en fait. J'étais comédienne et... Et à l'époque, du coup, c'est venu dans mes cours au conservatoire. J'étais comédienne à Paris. Et en fait, ça a été vraiment... c'est devenu ma passion. Et petit, j'ai été comédienne... Enfin, je suis toujours, mais par la force des choses, j'ai moins de temps. Et en fait, au bout d'un certain temps de pratique, j'étais presque plus intéressée par mes préparations avant d'entrer sur scène où je faisais du yoga, que le moment où j'étais vraiment sur scène. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, là, ma passion, elle est en train de basculer de l'autre côté, dans les coulisses. Mmh. Et puis, après, je me suis formée vraiment très sérieusement. Et puis j'ai continué.
Oui, j'ai une petite question. Mmh. Alors, comment donner l'envie à, par exemple, quelqu'un comme moi qui aimerait un peu se poser, méditer, mais qui en même temps est un peu pris par ce truc, l'injonction au bien-être, il faut bien manger, il faut bien dormir, bien se reposer, bien gérer ses émotions. Du coup, quels conseils vous pourriez donner pour commencer à aller vers la méditation du yoga, mais de manière assez tranquille?
Ben, essayez déjà. Essayez, et si ça vous fait du bien et que vous avez envie d'y retourner, ben c'est que ça vous convient. Et si ça n'est pas le cas, dans ces cas-là, ben, peut-être changer d'enseignant, changer d'approche, trouver la méthode qui vous correspond. Parce que, en fait, on est tous différents, donc peut-être que une approche va vous convenir plus particulièrement.
Mmh. D'accord. Je prendrai vos coordonnées.
Eric, tu voulais dire
non, c'est un peu ce que je voulais demander. Okay. C'était est-ce que tout le monde peut venir en fait? Parce que je vois, moi, je suis pas souple du tout, donc c'est vrai que je me dis,
Ouais, non, mais ça, c'est vraiment le cliché.
Je suis pas souple,
je peux pas faire du yoga. En fait, moi, je suis pas du tout souple à la base. J'étais très, 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 très raide. Et en fait, c'est parce qu'on fait du yoga qu'on devient souple. Et souvent, c'est plus on est raide, plus on en a besoin, et plus on a de tension, plus le yoga nous fait du bien. Et au contraire, quelqu'un qui serait vraiment très très souple, hyper lax, des fois ça peut être même dangereux le yoga parce qu'il peut aller trop loin. Donc en fait, non, c'est pas du tout un frein. Pas du tout. tout le monde peut pratiquer.
On va terminer en prenant de l'avance, puisqu'en général c'est en janvier qu'on le fait, mais bon, puisque nous on va pas se retrouver avant cette date-là, c'est le moment de prendre ses bonnes résolutions, comme on dit. Quelles seraient-elles pour vous là, à venir, si vous en avez?
Bon, continuer à savourer l'instant.
L'instant présent.
Voilà.
C'est un des mantras du yoga, non?
Ah, c'est... ça a un rapport plutôt avec la pleine conscience, mais oui, ouais. C'est lié, bien sûr. Le yoga nous ramène à l'instant présent.
Voilà. Eric.
Non, justement, est-ce qu'on peut s'inscrire toute l'année? Et est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des gens qui arrivaient justement en janvier après leur bonne résolution?
Ah oui, il y a un petit regain des fois en janvier, ouais.
Ouais.
Bah, c'est pour ça que je propose un cycle Ashtanga Yoga. C'est du yoga dynamique pour le coup, qui est assez... que souvent les hommes apprécient, parce que justement, ça bouge. Et c'est pas je reste assis et je suis... Parce que parfois, pour arriver à méditer, passer par le corps en mouvement, ben c'est plus facile pour certaines personnes que plutôt s'asseoir et être très très statique, parce que justement l'esprit, il a du mal à se poser. Et du coup, oui, je fais un cycle Ashtanga Vinyasa, donc cette pratique de yoga dynamique en mouvement, en janvier. Et j'ai déjà pas mal d'inscrits, du coup je pense qu'effectivement il y a un regain, une remotivation, déjà même en décembre.
Gabin, alors attends, je te rallume ton micro, on t'écoute Gabin, vas-y.
Et je voulais passer une dédicace à mon grand-père Jean-Marie et à ma grand-mère Elisabeth.
Ben voilà, ça c'est fait. On espère qu'ils nous écoutent. Béranger, j'ai piqué ta question, du coup je te l'envoie quand même. Est-ce que tu as des résolutions, toi?
Non, je prépare que des mauvaises. Mais juste une petite aparté. Si on vient avec Eric, on a droit à une séance d'essai découverte début janvier.
En fait, les séances d'essai, oui, bien sûr, ouais. c'est 10 euros. Mais vous êtes les bienvenus.
D'accord, donc je reprendrai bien vos coordonnées.
Et ben, on peut les donner aussi pour nos auditeurs. On peut vous retrouver, vous avez un site internet.
Oui, sofroyogi.fr. Alors avec un F et deux Y. Okay. Et .fr.
Sofroyogi.fr. Ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
Avec plaisir.
Eric, Gabin, Béranger, merci à tous les trois.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Voilà. Est-ce qu'on a fait la blague nulle de fin
non,
d'année?
On la fait pas.
On se casse comme ça. Allez, bonne fin de journée. Merci.
Bonne journée.